franceinter.fr.
France Inter,
en direct de Marseille,
avec Malongo, café biologique et équitable à retrouver sur malongo.com.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Marseille, porte des Suds.
C'est-à-dire la France et l'Algérie avant, ils sont la même chose quand il y avait la guerre de l'Algérie. Je ne sais pas, on venait ici pour... Maintenant, on n'est pas bon. Quand on parle à quelqu'un qui s'énerve, il dit « Va chez vos autres là-bas, qu'est-ce que vous faites à Chino ? Pourquoi ça ?»
Quand on dit Marseille, porte des Suds, on pense spontanément aujourd'hui à l'Algérie. En réalité, au long de l'histoire, le rapport de Marseille à la Méditerranée s'incarne sur plusieurs échelles. Il y a d'abord le Marseille des Corses, des Italiens, des Espagnols. Il y a le Marseille oriental qui attire les Grecs et les Levantins. Et à ses rôles premiers, se surimpose la fonction de capitale coloniale. Marseille, porte d'entrée des Maghrébins et des Noirs d'Afrique. Depuis, la ville a vécu aux premières loges le repli de l'Empire. Cependant, la décolonisation n'a pas tari les flux. Flux des travailleurs dans les premières années d'après 62, regroupement familial ensuite, et échange perpétuel de marchandises par toutes les méthodes possibles et imaginables, du conteneur au cabas. La question lancinante se pose plus que jamais à celui qui vient d'ailleurs. Ne demande pas son lieu de naissance, mais son lieu d'avenir. Marianne reviendra après la journée de France Inter d'aujourd'hui à tous ces enjeux entre la France et l'Algérie, puisque dans le lieu où nous sommes, au Théâtre de la Criée, samedi prochain, le 31, et dimanche, le 1er, se réuniront sur le thème « La France, l'Algérie, 50 ans après la fin de la guerre », des personnalités de premier plan, des historiens, des journalistes. Notre invité aujourd'hui, modestement, à la marge de l'histoire, un journaliste historique, Michel Sanson, bonjour, je peux vous présenter ainsi ?
Peut-être, oui. Je ne sais pas si c'est flatteur ou pas. Mais...
Vous étiez correspondant pendant très longtemps du Monde ici. Je ne sais pas si les Marseillais sont tous heureux de vous retrouver, mais vous nous manquez depuis que vous ne nous racontez plus dans votre journal le Marseille tel que vous le voyez.
Ben, tant mieux.
Alors, vous allez nous balayer le passé de l'immigration marseillaise. D'abord, je disais dans le chapeau capitale orientale, les négociants grecs, les négociants levantins, les Arméniens.
Les Arméniens, oui, parce que les Arméniens sont arrivés en masse en 22, quoi, après le génocide, mais ils étaient là avant. C'est une ville-port à l'époque de toute la Méditerranée et les commerçants, effectivement, levantins, ou d'ailleurs venant de Turquie, la famille de M. Balladur, par exemple, c'est des gens qui sont installés ici depuis le 19e siècle, des Grecs. Des Levantins, au sens large du terme, qu'on appellerait aujourd'hui Libanais ou Arméniens, qui sont présents depuis très longtemps, un siècle et demi au moins.
Et proches aussi, ne s'inscrivant pas davantage dans un cadre colonial. Les Corses, enfin encore que les Espagnols, les Italiens.
Les Italiens, oui. Les Italiens ont en fait fait la révolution industrielle à Marseille, comme d'ailleurs beaucoup d'émigrés ont fait la révolution industrielle dans le reste de la France. Dans les mines du Nord, c'était beaucoup de Polonais, de Belges ou de Marocains qui ont fait cette richesse. Et à Marseille, dans l'industrie de main-d'œuvre, savonnerie par exemple, alimentation, les Italiens sont là en masse. Ils sont si nombreux qu'en 1934, par exemple, sur 800 000 habitants, il y a 127 000 Italiens recensés, je dis de nationalité italienne, ce qui signifie une part considérable de la population, d'autant qu'on ne compte pas les Italiens qui sont français, enfin les gens d'Italie qui sont devenus français. Donc c'est une masse considérable d'Italiens qui a produit ici beaucoup de richesses, sur les docks, dans la pêche, et bien sûr dans l'industrie triomphante qu'était celle de Marseille au début du XXe.
Depuis, Michel Sanson, que vous ne décrivez plus quotidiennement Marseille pour Le Monde, vous menez de grandes enquêtes et récemment, vous venez de publier un livre chez White Project, c'est un éditeur qui, comme son nom l'indique, est de Marseille, sur l'histoire du jazz. Vous voyez la ville au prisme de la musique. Alors, il y a l'accordéon des Lombards,
oui.
dans l'époque qui nous concerne.
Absolument.
Il y a le jazz.
Il y a le jazz qui arrive.
Vous voyez les prémices.
Oui. avec des Noirs qui jouent au panier dans les années 27, que Claude Maquet a formidablement raconté. Mais même Gaby Delis, la grande chanteuse des années 17, est venue ici chanter avec Harry Pilser, qui était un danseur noir américain, et son frère qui dirigeait un jazz band.
Il y a le tango.
Et bien sûr, le tango qui arrive très vite.
Il y a Reda Kerr qui, comme son nom l'indique, vient d'Égypte.
Voilà.
Voilà. Et comme son nom l'indique, il y a Ivo Livi. On revient à la prégnance italienne, dit Yves Montand.
Nous sommes venus nous installer à Marseille. Quand je dis installer à Marseille, c'est une façon de parler. Disons, une sorte de maison de bidonville dans la banlieue de Marseille, du côté de Saint-Antoine, Verduron exactement.
Et vous avez été un petit enfant de Marseille.
Oui, un petit enfant de Marseille. La première image que j'ai d'ailleurs, c'est une image de la mer à travers les pins qu'on entrevoyait en haut de Verduron-Haut. Et mon père et ma mère allaient travailler le matin, ils partaient à 5 heures du matin, ils nous laissaient sous la surveillance de ma sœur qui s'appelle Lydia, avec un œuf ou deux œufs pour la journée, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Quand on a déménagé de Verduron-Haut pour aller habiter alors un quartier populaire, les Crottes, à Marseille, entre le boulevard Odo et Arin, où il y avait d'un côté des usines de produits chimiques, de l'autre côté il y avait le bial, comme on l'appelait, c'est-à-dire c'était un grand canal dans lequel on déversait tout ce qu'on pouvait dedans. Et là, nous avons découvert les punaises et des tas de choses. Mais je ne voudrais pas faire du romantisme là-dessus sur la mauvaise enfance, sur l'enfance pénible et difficile. Nous étions trois, ma sœur Lydia, mon frère Julien, moi, mon père et ma mère. On s'est aussi beaucoup marré. C'était la vraie belle, chouette, minable, salope misère, quoi, comme on peut dire.
Alors, ils posent leurs valises, ils s'installent, si on peut appeler ça une installation. Quelle est la différence, d'ailleurs, entre le transit et l'immigration qui aboutit à l'installation ?
C'est-à-dire que si Marseille a cette image qui est tout à fait discutable de cosmopolitisme, ça tient aussi au fait que Marseille est un port de transit énorme. C'est-à-dire que des dizaines de milliers d'Italiens, par exemple, qui vont s'installer dans tout le cours du 19e siècle, au début, puis jusqu'au 20e siècle, en Argentine ou aux États-Unis ou même au sud du Brésil, par exemple, passent par ici. Et chaque fois, ils passent et certains restent, d'autant que des familles se sont installées. Et c'est d'ailleurs par ce biais qu'un grand livre a été écrit là-dessus. La pizza s'est mondialisée de Naples par Marseille, où ont été inventées les premières pizzerias. Je vous conseille ce livre, ça s'appelle Pizza Connection. Et ça raconte ça, c'est-à-dire que certains restent, d'autres passent. Et toute la Méditerranée qui émigre passe par Marseille, qui émigre dans le reste du monde, de la même façon que tous les soubresauts de la révolution russe ou autre amènent des réfugiés ou des réfugiés économiques dans cette ville.
Les Maghrébins, venons-en à eux, passent eux aussi. Ils ne restent pas nécessairement à Marseille. Ils peuvent se disperser dans les usines de France. Ces Maghrébins sont d'abord des Algériens et parmi les Algériens, d'abord des Kabyles.
En 1904, 5000 musulmans travaillent en métropole, dans les usines de Paris, dans les savonneries marseillaises ou dans le bassin minier du Nord. On les appelle les Kabyles car ils sont pour la plupart originaires de Kabylie.
L'oncle maternel de mon père, qui est né en 1886, est venu en France à l'âge de 18-19 ans. L'émigration, c'est jamais un hasard, on n'émigre pas par hasard. Je peux même dire que c'est jamais un choix, c'est un destin. Donc c'était un émigré économique.
Regardez ces hommes qui marchent dans le quartier de la rue d'Aubagne, à Marseille. Regardez-les bien. Ces images sont précieuses, tant il est exceptionnel en 1920 de filmer des musulmans sans mise en scène exotique. À l'époque, personne n'imagine que ces indigènes nord-africains auront ici des enfants et des petits-enfants.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En direct et en public de la Criée à Marseille avec Michel Sanson. Alors on en vient, parmi les gens qui sont accueillis par la Porte des Suds, aux Maghrébins. Quand on dit accueillis, ils peuvent être appelés, ils peuvent être renvoyés dans ces années du premier 20e
Absolument.
Siècle.
Absolument, vous avez parlé des Kabyles qui viennent en 1906, mais dès 1899, on fait venir des travailleurs Kabyles pour une raison simple, on a parlé des Italiens tout à l'heure, c'est que les Italiens commencent à s'organiser, à se syndiquer.
Il n'y a pas de « on » en histoire.
Il n'y a pas de
« on » en histoire.
Non. C'est qui? Donc les chambres de commerce, les patrons ou le maire fait venir des travailleurs parce que les Italiens commencent à exagérer un peu, à revendiquer en clair. Et ils viennent. Ils viennent, j'ai dit en 1899, il y a un premier appel, hein, un appel, on va les chercher, et de la même façon qu'on va les chercher en 1914, bien sûr, pour deux raisons. Alors, c'est plus seulement des Kabyles, pour faire la guerre, pour certains d'entre eux, et pour d'autres, pour remplacer ceux qui font la guerre. C'est-à-dire que les usines marseillaises se remplissent de travailleurs venant de l'Afrique du Nord. Et ce qui est amusant, c'est que, enfin, c'est amusant, c'est plutôt sinistre, suivant le moment, on les appelle, ils sont formidables, et quand on n'en veut plus, on trouve des caractéristiques absolument épouvantables. Donc moi, j'ai retrouvé ces citations. Les Kabyles, en 1899, sont considérés comme des montagnards travailleurs. Et en 1917, quand on a moins besoin d'eux, ils sont désignés par le procureur de la République comme des hommes grossiers, cupides et insolents. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes, mais on n'a plus besoin d'eux. Et quand Vichy, bizarrement, a besoin d'eux de nouveau en 1941, on leur promet des carrés musulmans dans le cimetière, on leur promet, c'est-à-dire la République, des carrés musulmans, une grande mosquée, on leur fait fêter l'Aïd, etc. C'est-à-dire que leur réputation tient uniquement au fait qu'on a besoin d'eux ou pas besoin d'eux, et ça a été sinusoïdal pendant au moins tout le XXe siècle.
Janvier 1943, destruction d'une partie du vieux port que les Allemands et Vichy considéraient comme un lieu d'abattardissement. Il devait bien y avoir des Arabes. 1944, passage en fanfare de beaucoup de soldats indigènes à la faveur du débarquement de Provence.
Qui est effectivement la libération de Marseille faite par des tabors marocains et des tirailleurs algériens sous la direction du général de Montsabert.
Et dans les années 1950...
Depuis 10 ans, entre l'Algérie et la métropole, l'accroissement des déplacements des musulmans a été constant, atteignant au total 2 millions de voyages dans les deux sens. On se fait souvent de ces hommes une idée fausse. Il ne faut pas confondre manque d'adaptation à une vie nouvelle et désœuvrement. La très grande majorité est venue en métropole pour y travailler. Et il faut ici insister sur un fait dont les Français n'ont pas toujours conscience. La France a besoin de la main-d'œuvre nord-africaine.
Je me trouvais hier à Marseille, où j'avais à me pencher précisément sur le problème des Nord-Africains dans ce port qui est le vestibule d'arrivée de la plupart des travailleurs qui viennent d'Afrique du Nord. Et dans ces bidonvilles qui entourent Marseille, j'ai vu ce Kabyle qui, sortant de son gourbi, me dit « Moi, j'étais à Bir Hakeim. Il était à Bir Hakeim et aujourd'hui, il est chiffonnier à Marseille. »
C'est le ministre de la Construction de l'époque qui pose la question du logement de ces immigrés dans la ville, hôtel, bidonville, cité de transit.
C'est-à-dire que se constituent à Marseille, suivant les vagues, des quartiers où se regroupent les gens. Parce que, comme toutes les immigrations, on va chez son cousin, on va chez sa famille, etc. Pour ce qui concerne l'immigration venue de l'Afrique du Nord, très vite se constitue autour de Belzunce, alors même qu'on a pensé à un moment, la municipalité a pensé installer un camp, et avec une mosquée, une espèce de village kabyle, folklorisé. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, le projet est tombé à l'eau. En revanche, les bars, les foyers ont été le lieu d'accueil de tous les gens qui arrivaient volontairement ou involontairement. Cette trace, d'ailleurs, est restée très, très longtemps dans l'histoire. Et ça a créé, alors on parle des Algériens, ça a créé des imaginaires géographiques. Alors pour ce qui concerne Belzunce, c'est absolument réel. Ça s'est répandu ailleurs, dans d'autres villes, où s'installaient en groupe des gens qui arrivaient, encore une fois, soit appelés, soit poussés par la misère, ou par une révolution, ou par le terrorisme plus récemment.
L'archive pâtée qu'on écoutait date du début de la guerre d'Algérie. Alors on peut imaginer les tensions pendant la guerre d'Algérie, les embarquements de soldats avec le PC qui veut les empêcher, des quartiers tenus par le FLN, des règlements de compte entre indépendantistes algériens. En 1962, l'arrivée massive de ceux qu'à la marge de l'histoire on nomme les apatriés, et qui n'ont pas toujours été bien accueillis, à commencer par le maire de Marseille. Mais pour la période qui va suivre, ce qu'on imagine moins, c'est que le flux recommence après l'indépendance algérienne du fait de l'état de l'économie algérienne et de la possibilité garantie par les accords d'Évian. Les accords d'Évian Absolument. Garantissent quand même certaines choses pour les Algériens de faire l'aller-retour.
Absolument. Et ça a créé un flux permanent économique qui a été bien décrit, vous avez tout à l'heure cité le cabas des containers, ce commerce entre l'Europe et l'Afrique du Nord qui s'est fait par ce qu'on a appelé les trabandistes et dont Marseille a été une place tout à fait majeure pendant quelques décennies. La suppression, j'ai oublié la date, des visas au contraire, l'instauration des visas a fait plonger ce commerce. On est passé de 400 boutiques autour de Belzunce à une quarantaine maintenant.
Le lieu alors Belzunce, vous nous en parlez depuis longtemps, c'est en plein centre-ville, à la haute époque, dont vous décrivez déjà le crépuscule, un véritable hypermarché, un centre commercial pour les petits entrepreneurs qui savent ouvrir les bonnes fenêtres sur les bonnes opportunités.
Le pick-up, oui.
la cuisinière et
un vélo.
Ouais, c'est d'accord. Tout.
Et du linge.
Voilà.
Vous avez fait le voyage spécialement pour faire ces achats ?
Non, je fais la navette, moi, tous les 5-6 jours, je fais ça. Je fais des voitures, je répare des voitures. J'achète des voitures en Algérie, je viens ici, j'achète à la casse, avec facture, je démonte, je remets tout sur le véhicule, je descends. Et là, je revends.
Cette 4L-là ?
C'est une voiture auto-école, celle-ci. Il y a des pédaliers.
Algérienne.
Elle est de 86. Et j'ai remplacé le moteur, la boîte, la suspension, les deux sièges et un train de pneus, c'est tout.
Et vous l'avez retapé ici à Marseille,
oui,
et vous rentrez
retapé.
Avec.
J'ai déjà envoyé 3 véhicules déjà.
On peut dire que c'est votre métier, ça, de faire la navette entre Alger et Marseille.
Toujours, là je descends aujourd'hui, demain je suis à Alger, 3-4 jours je reviens. J'ai un visa de 6 mois.
Un visa touristique.
Touristique, 6 mois, je peux rester ici, stagner à Marseille pendant 6 mois ou à Paris où je veux.
Difficile à obtenir ça ?
Non, absolument pas. Absolument pas.
Et ça c'est pas bon pour Marseille, à votre avis ?
Ils pourraient faire leurs courses ailleurs. Ils nous acceptent pas, nous, là-bas. Pourquoi ils doivent venir ici ? Moi, je dis chacun chez soi, hein. Voilà.
Remarquez, je ne dis pas que c'est pas bon, mais enfin, quand on les voit avec les voitures chargées et les marchandises dessus, ça surprend, quoi, disons.
Ça donne une certaine image à Marseille de ville qui accepte les étrangers. C'est une bonne chose.
Vous trouvez ça bien pour la ville ?
Quoi ? Pas trop, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut pas les... Ils sont là, on peut pas les...
Moi, je pense que ça peut être qu'une bonne chose, de toute façon, pour l'économie marseillaise.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Marquer un temps d'arrêt ? Alors, vous dites qu'il y a eu un temps d'arrêt, mais le temps d'arrêt, il est aussi justifié par le fait que on, comme vous dites, la municipalité, la chambre de commerce, veut faire remonter le prix du mètre carré à Marseille.
Il y a deux mouvements. D'abord, je vais préciser que M. Mercier, qui était président de la chambre de commerce, nous a raconté, à Béraldi et moi, quand on préparait ce livre, « Gouverner Marseille », comment la Chambre de commerce s'est inquiétée de l'explosion de ce commerce ethnique, qu'ils appelaient ethnique, qui polluait le centre de ville. C'est-à-dire que l'idée, c'était, pollué dans leur esprit, l'idée, c'était de renvoyer tout ce marché de Belzunce dans les quartiers nord de Marseille, voire même à l'Estac. Opération qui a été considérée par certains de ces acteurs comme un génocide bancaire, c'est-à-dire qu'on leur interdisait de faire des emprunts parce que la coloration de la ville, au sens quasiment presque physique du terme, était insupportable à toute une couche de petits commerçants locaux issus, eux, de la petite bourgeoisie locale. Ce qui est étonnant, c'est que ça s'est traduit par la description d'une crise du commerce à Marseille qui n'a pas lieu en vérité. Ce commerce est mort, il a été remplacé par d'autres enseignes. Dans les dernières années, il y a 300 boutiques qui sont ouvertes au centre de Marseille, mais qui ne sont plus tenues par les anciens acteurs, pharmaciens, marchands de légumes,
boutiques,
etc.
Boutiques internationales.
Comment ?
Boutiques internationales.
Bien sûr, c'est Nike, c'est H&M, c'est Zara qui ont remplacé. Donc le commerce marche très bien, mais un commerce a disparu, c'est celui dont on parlait des 400 boutiques de Belzunce.
On pourrait s'arrêter sur un ou deux moments de crise. La première significative, c'est 1973, beaucoup de rapatriés, beaucoup d'Algériens, pas de logement.
62.
Pas d'emploi. Et en 1973, un tramino est assassiné.
Oui,
à Marseille, 5 autres personnes sont blessées. Le Méridional commence à expliquer qu'il y a assez de violeurs algériens, de proxénètes algériens.
Assez de syphilitiques algériens. C'est l'éditorial de Gabriel Dominique. Assez de syphilitiques, assez de proxénètes algériens. Oui.
Et de part et d'autre, au fond, Boumédienne en Algérie et le gouvernement français s'entendent sur le fait qu'il faut maintenant verrouiller l'arrivée des travailleurs, ce qui n'empêchera pas le regroupement familial. Mais autre grande crise, 1991, c'est une crise nationale et internationale. À Paris, le président Mitterrand réunit les représentants des communautés religieuses pour que les uns et les autres disent qu'il faut appuyer l'Union nationale face à l'Irak de Saddam Hussein. Marseille avait précédé, qui avait pris une initiative peu avant de Marseille Espérance et de la Constitution et de la Fédération des communautés religieuses.
Il s'agit bien des communautés religieuses. C'est une initiative qui a été lancée par M. Vigouroux quand il était maire et qui consistait à réunir autour de lui, représentant les laïcs en quelque sorte, les représentants des églises ou des communautés supposées. J'ai dit bien communauté supposée parce que les représentants des différents courants musulmans à Marseille a toujours été extrêmement complexe. Est-ce que c'est des bouchers qui représentent les musulmans? Est-ce que c'est tel imam? Est-ce que c'est tel autre? Est-ce que c'est tel ou tel qui va représenter le bouddhisme? Et on a découvert après que dans Marseille Espérance, celui qui représentait le bouddhisme était un jeune monsieur Taillandier, catholique de religion, et qui faisait partie de Marseille Espérance. Donc c'est une invention étrange qui a joué un rôle, on va dire, plutôt positif au moment des grandes crises, mais qui a quand même un sacré défaut, c'est que ça consiste à penser que tous les Marseillais sont organisés par leur religion. C'est quand même un peu bizarre, parce que moi je connais beaucoup de gens qui s'appellent Mohamed ou Yasmina et qui boivent du vin et qui font à peine Ramadan comme moi je fais Noël et qui ne se sentent pas tellement représentés par un imam traditionnaliste comorien.
Dites-moi, est-ce que vous connaissez beaucoup de Mohamed qui participent au conseil municipal de Marseille avec votre compère Jean-Louis Comolli? Vous aviez tourné un film parmi d'autres sur la vie politique. Et là, nous sommes juste avant les élections municipales de 2001. Et vous êtes auprès de Tahar Rahmani, à l'époque, l'unique conseiller municipal à prénom maghrébin.
Est-ce que vous pensez qu'il est important que d'autres enfants de l'immigration maghrébine soient au conseil municipal?
Ah oui.
Pour le moment, il y en a un sur 103, c'est ça?
Sur 101. Je suis le 1.
Après le 1 du 101.
À croire qu'on l'a fait exprès pour voir.
À quoi ça servirait qu'il y en ait plus?
Mais je pense qu'après, ça doit devenir banal.
Ça ne l'est pas.
Ça ne l'est pas encore.
Et pourquoi ça ne l'est pas?
Mais ça ne l'est pas pour des raisons qui concernent les partis politiques. Parce qu'à un moment donné, on a pensé, non pas que c'était une tare, mais peut-être un peu difficile, aux yeux de l'opinion, etc., etc.
Monsieur le maire, voilà bientôt 6 ans que vous gouvernez cette ville. Et nous n'avons senti de votre part que très récemment votre volonté de faire de la coopération décentralisée, et particulièrement avec les pays du sud ou de l'est de la Méditerranée, une politique forte et ambitieuse à la mesure d'une ville que nous souhaitons voir devenir capitale méditerranéenne.
Alors Rahmani va avoir beaucoup de mal à se maintenir au conseil municipal. Ils sont 3 ou 4 maintenant sur 101. Merci de la précision. Et en même temps, vous nous expliquez que la municipalité construit et les communautés religieuses et les clientèles politiques.
Mais oui, parce que je ne crois pas que ce soit une spécificité marseillaise. Hein. Mais l'idée que les gens sont assignés à une communauté, c'est une idée que n'ont pas forcément les gens qui sont supposés membres de cette communauté. J'ai pris l'exemple de la religion. C'est un besoin pour les acteurs politiques de repérer qui, dans cette ville, a besoin de ceci ou de cela. Donc les maires successifs, et pas seulement M. Godin, ceux d'avant, M. Vigouroux, cherchaient toujours les représentants des Corses, des Arabes, des Arméniens, etc. Donc ils construisent cette idée-là, dont on s'aperçoit ensuite qu'elle est un peu plus compliquée qu'ils ne croient dans la réalité sociologique, parce que beaucoup des gens qui sont arrivés ici n'ont plus envie d'être considérés soit comme des Algériens, soit comme des Libanais ou autres.
Merci Michel Sanson. Dans la postface de votre dernier livre, À fond de cale, l'histoire du jazz à Marseille, White Project, Francis Marmand dit: parler de Marseille déclenche un orage de clichés. J'espère que ça n'a pas été le cas pour nous, ni pour les autres émissions de France Inter qui vont suivre ici, Downtown, et le téléphone sonne, ni pour les journées du 31 mars et du 1er avril de Marianne, qui auront lieu en public, entrée libre sur inscription, tout renseignement sur notre site, du même endroit d'où nous émettons, c'est-à-dire le théâtre de la Criée, avec Yvan Charby et Jacques Sigal et Camille Poux-Jelaguier, les 14h.